l'art et des notes.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Évasion, Radio Balise ou Radio Laser pour cette seconde émission spéciale de Des Polars et des Notes consacrée à la filière du livre et à ses difficultés consécutives à la crise sanitaire, mais aussi à la découverte de métiers et d'institutions peu connues. Depuis la première émission, début mai, le déconfinement a eu lieu et il a même tendance à connaître une réelle accélération ces derniers jours. La preuve, les librairies sont ouvertes, les romans et autres ouvrages sortent à nouveau. À un rythme réduit, certes, mais la vie semble reprendre son cours. La crise serait-elle donc derrière nous? Nous allons tenter de répondre à cette question particulièrement complexe en compagnie de nos invités. Le retour à la situation antérieure à la crise ne saurait être un but, sachant que nombre de structures, maisons d'édition, librairies, imprimeries ou de travailleurs du livre étaient déjà auparavant dans une grande précarité. Comment produit-on des livres numériques? Les maisons d'édition indépendantes ont-elles obtenu les aides réclamées dans la tribune Crisis? Sont-elles parvenues à un embryon d'organisation? Et qu'est-ce donc le Centre National du Livre? Quel est son rôle et les moyens dont il dispose? Voilà tout ce que nous allons essayer d'éclaircir dans cette émission spéciale. Avant de commencer, un hommage à George Floyd, à toutes les victimes, quelles qu'elles soient, du racisme, de la bêtise et de l'intolérance. Strange Fruit de Billie Holiday.
Strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for tree to drop. Here's a strange and bitter cry.
Numérique ou papier, telle est la question. Sous quel format lire nos romans préférés? Le nombre de liseuses en circulation augmente. Pourtant, le livre numérique est loin de connaître en France le succès qu'il connaît en Amérique du Nord, par exemple. Alors, est-ce la faute au prix pas forcément attractif, au fameux DRM qui vous empêche de prêter votre ouvrage? Il y a 1000 justifications qui circulent, mais avant de se pencher sur ces critiques, Mélissa Luciani, créatrice de livres numériques depuis 2013, a la gentillesse de venir nous expliquer comment on fabrique un tel livre et le travail qu'il y a derrière. Bonjour Mélissa.
Bonjour.
Alors, comment devient-on créatrice de livres numériques ?
Alors moi, au départ, j'ai juste rencontré une équipe d'indépendants qui était composée de compositeurs et de correcteurs. Ils avaient besoin d'aide pour faire des tâches qui étaient un peu longues et compliquées au départ, il y a 10 ans, qui n'étaient pas faites avec des scripts. Et du coup, j'ai voulu les aider. Après, je me suis passionnée et puis j'ai appris sur le tas. Voilà.
Et comment on transforme un manuscrit? Parce que maintenant, il n'y a plus de manuscrits, c'est des tapuscrits, souvent des fichiers Word d'ailleurs. Et comment on transforme un fichier Word en roman à télécharger sur une liseuse?
En fait, moi, je travaille avec des compositeurs qui font leur maquette papier sur un logiciel qui est InDesign. Et je vais devoir ensuite insérer des balises et faire une exportation. Et ensuite, on travaille dans le code avec le langage informatique, en fait, de programmation web.
Ouais, parce que il y a un problème, c'est le problème du temps qui est nécessaire. Parce que ce qu'on entend souvent, c'est oui, faut quand même pas exagérer. Ils nous vendent un livre numérique pratiquement à quelques euros près, au même prix qu'un livre papier. Pourtant, il n'y a pas l'imprimerie, il n'y a pas le papier. Mais combien de temps ça prend à transformer un manuscrit en livre numérique?
Ben, ça dépend. En fait, c'est très compliqué parce que l'exportation du fichier texte au fichier numérique n'est pas longue. Mais après, ça prend énormément de temps à fignoler et il faut énormément travailler dans le code. Et ça peut prendre 2-3 jours. Après, ça dépend. Si c'est un roman tout simple ou de la littérature générale, il n'y a pas énormément de travail. Mais quand on doit faire des romans jeunesse, par exemple, il y a un travail sur les images, un travail sur les notes. Et ça peut prendre énormément de temps à faire.
Mais tu travailles tout seul ou avec le graphiste quand il y a du travail sur les images?
Non, je travaille toute seule.
Donc il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de règle. Ça peut être même un gros roman, ça va aller plus vite qu'un petit livre pour enfants.
Exactement, exactement.
Moi, il y a un truc qui m'a toujours passionné. Je me disais que quand il y aurait des livres numériques, on pourrait mettre des liens directement dans le texte. D'ailleurs, par exemple, si l'auteur parle d'une musique, on peut mettre le lien directement dans le texte. Ou s'il parle d'un paysage bien précis, on peut mettre un lien vers une photo sur Google. Est-ce que ça commence à se faire, ça?
Ouais, c'est exactement ce qu'on essaye de faire. C'est les EPUB enrichis, en fait. Alors après, quand c'est des liens qui sont tout simples, on le fait déjà, quand c'est des liens web. Et là, on essaye de vraiment pouvoir ajouter du son, des images, même des animations. Et c'est un peu le principe du livre numérique par rapport au livre papier, du coup.
Parce que là, ce serait un vrai plus, quand même.
Ouais. On travaille dessus.
Ouais, mais il doit y avoir des problèmes de droit, non ?
Alors les problèmes de droit, moi, c'est les maisons d'édition qui gèrent, ils me fournissent un package et après c'est à moi de gérer avec les images qu'ils me fournissent, les liens qu'ils me fournissent. Moi, j'ai pas de liberté par rapport à ça, donc je peux pas trop m'avancer là-dessus.
Et ces fameux DRM, parce que alors les DRM, c'est les petits trucs qui sont dans les codes et qui empêchent justement de prêter son livre à un copain ou...
Ouais, voilà,
on achète un livre, mais il n'est pas vraiment à nous. Il suffit des fois de juste changer d'appareil pour le lire et ça ne fonctionne plus, quoi.
Oui, alors si, parce que c'est avec les identifiants, en fait, qu'ils fonctionnent. Donc ça, on peut le faire passer quand on l'achète, on a nos identifiants. Et on peut le faire passer, si j'ai 4 tablettes, je peux le mettre sur mes 4 tablettes. Par contre, c'est un peu compliqué, oui, de prêter un livre numérique. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas enlever ses droits, parce que sinon, tout le monde... Enfin, à un moment donné, il faut que ça puisse être rentable de vendre des livres numériques. Et si on en achète un et qu'on le passe à 10 personnes, à un moment donné, il va y avoir un problème là-dessus.
Alors, le problème, c'est qu'il faut payer les gens qui travaillent pour faire un livre.
C'est ça.
C'est ça. Et ça, on a du mal aujourd'hui parce que tout est gratuit. Ouais. Et donc, en fait, faire un livre numérique, ce n'est pas simplement balancer un fichier sur Internet. C'est aussi tout un travail de composition, tout un travail d'organisation.
C'est ça. Il y a énormément de règles à connaître. Il y a des logiciels à connaître. Il faut être... que ce soit en composition comme en code informatique et ça, tout ça à apprendre. Et puis, c'est tout le temps en évolution, en fait, ce métier. Donc, il faut toujours être à la pointe, quoi, et vraiment se renseigner sur tout. C'est un métier, vraiment.
Donc, tu es travailleuse indépendante ou c'est au contrat chaque livre est un contrat?
Il n'y a pas de contrat. Je suis indépendante et puis c'est un peu un contrat oral. Donc, on n'est jamais vraiment assuré d'avoir du travail.
C'est-à-dire, il n'y a pas de contrat, il y a quand même un contrat de client à artisan. C'est du travail, ouais.
C'est oral. On m'envoie un livre à faire, je donne un devis. Maintenant, c'est plus le cas parce que j'ai quand même des clients réguliers, donc ils connaissent mes tarifs. Mais voilà, on m'envoie le livre, je dois le faire, j'ai un délai et je le renvoie et je suis payée quelques temps après.
D'accord. Et donc, est-ce que la crise, là, cette fameuse crise sanitaire, a eu des répercussions sur ton travail?
Oui, il y en a eu pas mal parce que du coup,
dis-nous tout.
Des négatives et des positives.
D'accord.
Parce que en réalité, le problème, c'est que déjà de base, du coup, je disais, on n'a pas de contrat, donc on n'est jamais sûr d'avoir du travail et puis d'être payé en temps et en heure, c'est un peu compliqué. Et du coup, là, par rapport aux aides, on ne peut pas justifier qu'on n'a pas eu de salaire à tel mois par rapport à l'année d'avant parce que ce n'est pas un salaire qui est régulier. Je peux avoir travaillé 6 mois avant et être payé 6 mois après. Et du coup, là, ça va avoir des répercussions, moi, pour les 3 mois qui vont venir, on va dire. Mais après, moi, du coup, j'ai réussi aussi quand même à faire d'autres connaissances parce qu'il y a eu des petites maisons d'édition indépendantes qui n'ont pas pu fermer mais qui ont eu énormément de retard dans la livraison des numériques, qui ont dû faire appel à moi. Après, je ne sais pas si c'était juste du dépannage ou si ça va être un client régulier, mais en tout cas, j'ai pu faire de nouvelles connaissances. Donc,
Mais ça avait quand même beaucoup de précarité, tout ça.
Ouais.
Parce qu'entre les temps où tu ne travailles pas, il n'y a pas. C'est pas comme les intermittents, quoi, je veux dire.
Non. Ah non, non. C'est je travaille, je suis payée, je ne travaille pas, je ne suis pas payée.
Donc tu es hors du code du travail, en fait.
Oui. C'est vrai.
C'est un petit peu une forme d'ubérisation du travail.
Après. J'ai quand même des clients avec qui je travaille depuis des années et des années. Donc, je discute avec eux et puis ils m'expliquent. Là, j'étais pas sûre. Pendant le confinement, j'ai été très stressée de savoir si le travail allait reprendre. Mais en fait, on communique beaucoup entre nous. J'ai été assurée quand même que le travail allait reprendre, que ça allait bien se passer et tout. Mais c'est vrai que sans contrat... Il y a ce stress qui est permanent, quoi.
Et est-ce que, comme il y a beaucoup de formats entre Kindle, je ne sais pas, moi, tous les formats qu'il y a, est-ce qu'il faut que tu fasses un travail différent sur les fichiers entre toutes les diverses plateformes sur lesquelles ça va tomber?
Il y a des formats différents à faire, effectivement. Il y a des tablettes qui prennent pas en compte certains formats. Après, nous, ce qu'on essaie de faire... C'est là où c'est compliqué aussi, c'est qu'il faut qu'on adapte, nous, notre mise en page pour toutes les tablettes, tous les téléphones, tous les ordinateurs qui n'ont pas la même taille du coup d'écran. Donc, il faut vraiment qu'on trouve un juste milieu entre la mise en page du papier et entre la mise en page de tous ces supports, toutes ces tailles et tout ce qu'ils prennent en compte ou pas. Il y a des enrichissements comme les animations, par exemple, qu'on ne peut pas faire pour certains supports. On est obligé... de ne pas les faire et trouver un juste milieu, quoi, pour que ce soit vraiment top partout. Mais du coup, ça ne peut pas être exactement la même chose que pour le papier ou une certaine tablette type.
Donc, suivant le support dont je dispose, je n'aurai pas forcément le même livre que mon voisin qu'à un autre.
Non, et puis en plus, vous avez des... vous pouvez gérer vos paramètres. Donc, moi, ce n'est pas parce que je vais mettre la taille d'une police de telle taille que vous allez choisir cette taille-là. Donc, elle peut être énorme. Vous pouvez avoir 150 000 pages, alors que bah, votre voisin va en avoir 10, selon comment il a choisi la taille.
D'accord. Donc là, le boulot, pour l'instant, c'est de trouver d'autres contrats.
C'est ça. C'est ça.
Et comment on fait ? On démarche ?
J'envoie des CV tous les jours, régulièrement, pour dire que je suis là, que je suis présente, que s'il y a besoin de quoi que ce soit du dépannage, de l'aide ou du régulier, je suis là. Et c'est ça qui m'a aidée, du coup, pendant le confinement, parce que j'avais envoyé des CV il y a un an et au final, j'ai reçu des demandes.
Et les fameuses aides à la filière du livre, est-ce que ça touche aussi les travailleurs indépendants ?
Il ne me semble pas. On m'a dit de me renseigner vraiment pour le statut d'auto-entrepreneur. Moi, le problème, c'est que je ne suis pas vraiment... On ne peut pas qualifier ça de... Je ne suis pas vraiment dans la filière du livre, quoi. Je peux faire... Je ne travaille pas que pour des maisons d'édition.
Oui.
Je suis un peu une oubliée, en fait, dans ce métier, quoi.
J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus, moi, des
autres. Oui.
Ou c'est une idée que je me fais ?
J'ai pas entendu, pardon.
J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus des oubliés.
Ah oui, c'est clair.
Des gens qui sortent des cadres. D'ailleurs, on est en train de les casser, tous les cadres.
Oui.
Et qui se retrouvent comme ça. Oh.
Ouais, un peu oubliés. Puis ouais. Moi, je suis la dernière... Je suis en dernière position dans la chaîne, donc je suis en sous-traitance de sous-traitance. Et du coup, c'est vrai que des fois, les maisons d'édition, moi, elles n'ont même pas vu que j'existais, quoi.
Et donc, il n'y a jamais le nom de la personne qui a sur les couvertures ou, je ne sais pas, sur les fichiers.
Dans l'achevé numérisé, moi, j'ai des compositeurs je m'entends très, très bien et qui ont eu la gentillesse de me laisser mettre mon nom à la fin du livre numérique.
D'accord, mais c'est pas obligé.
Non, c'est pas obligé. C'est de la gentillesse.
Et il n'y a pas de droit. C'est-à-dire, je veux dire, si le livre, il se vend à 200 000 exemplaires ou il se vend à 500 exemplaires, c'est pareil.
Pour moi ?
Oui.
Ça change rien.
D'accord.
Ça change rien du tout. Moi, je suis payée au forfait, enfin, au mille de signe, comme les correcteurs, les compositeurs, j'imagine. Mais voilà, c'est tout. Après, mon travail est fait,
D'accord, merci beaucoup Mélissa. On en sait un peu plus sur le roman numérique. On a viré un peu des idées reçues. Là, c'est pas juste mettre un fichier en ligne.
Non.
Et puis, est-ce que tu aurais un roman à recommander aux auditeurs, un livre numérique ou pas d'ailleurs?
J'en ai plein.
Un seul.
Je suis surtout en jeunesse, on est en train de refaire tous les Pinocchio qui sont très intéressants et qui sont en texte classique et ils sont super bien expliqués, donc voilà.
Mais Pinocchio, c'est très bien hein, parce que des menteurs, on en voit tous les jours en ce
moment. C'est vrai, c'est bien dans le thème. Là,
c'est tout à fait d'actualité. Merci beaucoup Mélissa.
Je vous en prie.
Donc, on va s'écouter quand même Aretha Franklin. Don't play that song. Et puis, on te souhaite de trouver plein de contrats.
Merci, c'est très gentil.
Bye bye, bon après-midi.
Au revoir, merci. Don't play. Days that I once knew, the days that
Nous avons déjà entendu une correctrice, une traductrice, une attachée de presse, une créatrice de livres numériques, mais toutes ces professions travaillent pour une maison d'édition. Nadège Agulot est avec nous pour nous faire découvrir la maison qui porte son nom, ce métier d'éditrice, et nous parler des difficultés rencontrées ces derniers mois. Bonjour Nadège.
Bonjour Patrick, merci de nous avoir invités.
Ah ben c'est la moindre des choses. Donc Agulot Édition, c'est une maison fondée en 2015.
On a publié nos premiers livres en mai 2016.
En 2016, c'est tout récent. Ça avec des écrivains qui commencent à compter, de Frédéric Paulin, Valerio Varesi, Wojciech Szmilarts.
Ouais.
C'est une maison à votre nom en plus, c'est pour imprimer votre marque.
Oui, alors après on est quatre, hein, et chacun contribue à la reconnaissance et au développement de l'entreprise. Chacun ayant une fonction bien particulière dans l'entreprise. Je peux vous dire leur nom et ce qu'ils font, si ça vous intéresse.
Mais bien sûr.
Alors donc, il y a Sébastien Vespizer qui, lui, est directeur commercial et surtout fait un travail de dentelle auprès des libraires. Donc, il communique individuellement avec beaucoup de libraires. Il organise les tournées des auteurs, les présences en librairie. Et c'est vrai que nous sommes très actifs à ce niveau-là. Il est souvent sur les routes la plupart de l'année, on va dire même. Alors évidemment, pendant le confinement, il n'y a plus rien eu. Mais bon, normalement, voilà, c'est le cœur de son travail. Estelle Fleury, qui, elle, s'occupe vraiment du texte, c'est-à-dire elle travaille beaucoup en relation avec les traducteurs et les auteurs. Son métier, c'est vraiment que le texte qu'on va publier soit au meilleur de ce qu'il peut être.
C'est une éditrice, donc.
Voilà, c'est l'éditrice, et vraiment, voilà, elle fait ce travail d'échange avec et les traducteurs et les auteurs, parce qu'effectivement, un texte est... En fait, le travail du texte, il pourrait ne jamais s'arrêter. À un moment donné, on se dit, OK, bon, là, c'est bon, mais c'est vrai que bon, ça peut être sans fin, hein, l'amélioration d'un texte, etc.
Et oui.
Et la dernière personne, donc, c'est Sean Abig, qui est notre directeur artistique. Et donc, lui qui s'occupe plutôt du côté visuel de nos collections, de nos livres, etc.
Et vos livres, on les reconnaît de loin parce qu'ils sont tous faits selon une technique, la solarisation.
Oui, alors c'est du photogramme. Oui. C'est un procédé photographique inventé et développé par Man Ray dans les années 20, où en fait vous prenez du papier photo sensible, vous posez un objet et vous l'éclairez une demi-seconde d'une lumière très forte, par exemple une torche, et ça vous donne une impression d'objet. Ça vous donne l'impression d'objet sur le papier photo. Donc c'est comme prendre une photo mais sans caméra. Et effectivement, dans les résultats, en fait, on ne sait jamais trop ce que ça va être le résultat, parce que c'est un procédé artisanal et très organique et qui a sa part d'incertitude, mais ce qui fait aussi l'émotion aussi dans nos couvertures, c'est cette part d'incertitude de ne pas savoir ce que sera au final. Voilà, l'objet qu'on a choisi, quelle forme il aura sur cette photo, en fait.
Mais ça donne un peu de flou qui donne envie de voir derrière.
Tout à fait.
Et donc, aviez-vous, quand vous avez fondé Agulot Édition, est-ce que vous aviez une idée précise des textes que vous vouliez éditer ?
Alors, moi, personnellement, j'aime qu'on me raconte des histoires. Donc, je voulais vraiment essayer de trouver des auteurs et des textes qui pouvaient me raconter quelque chose, qui pouvaient m'intéresser à un sujet, à une époque, à une communauté. Et puis, je suis quelqu'un de curieux et j'aime savoir comment les autres vivent, ce que je connais moi. Alors, ça peut être mes voisins d'à côté, mais ça peut être effectivement le Slovaque qui vit dans un HLM à Bratislava, ou alors ça peut être aussi, donc là on est plutôt dans le roman noir et le roman social, mais ça peut être aussi les mondes imaginaires que savent si bien créer les auteurs russes. Où il reste quand même toujours une part de réalité sociale quand même, même si on se retrouve dans le réalisme magique des hommes qui se transforment en poissons, etc. Mais il y a toujours une réalité sociale derrière, et c'est ça qui nous intéressait vraiment, c'est cette réalité sociale, économique, politique que la fiction peut si bien raconter, en fait.
Et donc, on s'intéresse aux professions du livre. Et non, le métier d'éditrice, c'est pas simplement publier des livres, c'est-à-dire les faire imprimer et les mettre en vente. Vous en avez parlé tout à l'heure, il y a le travail avec l'auteur, le travail des textes qui prend énormément de temps.
Tout à fait. Et surtout quand on est sur une traduction, il faut, alors selon la longueur du livre, ça peut prendre jusqu'à un an de travail. En sachant qu'en plus, sur du texte traduit, selon l'origine du texte, il se peut que des fois le travail d'édition n'ait pas été fait. Dans ce cas, on se retrouve avec une traduction qu'il faut aussi éditer. Donc, quand vous publiez, donc en tant qu'éditeur français, par exemple, quand vous publiez un texte français, l'éditrice, avec l'auteur, va faire ce travail d'édition, d'amélioration du texte, style, etc., etc., dans le texte. Mais si ce travail, donc dans certains pays, ce travail est de moins en moins fait. Donc, ça veut dire qu'on se retrouve des fois avec des traductions qu'il faut éditer comme si c'était un texte français, finalement. Et là, c'est beaucoup, beaucoup encore plus de travail, on va dire.
Mais vous travaillez avec le traducteur dans ces cas-là ?
On travaille avec le traducteur, oui, tout à fait.
D'accord. Et qui lui-même reprend avec l'auteur, donc ?
Alors, on encourage toujours, effectivement, les traducteurs à prendre contact avec les auteurs. En plus, ça rassure les auteurs de savoir que le traducteur se pose des questions. En fait, un auteur étranger qui n'est pas contacté par un traducteur est plutôt inquiet de se dire, le traducteur a tout compris dès le départ. Est-ce qu'il a compris le petit jeu de mots, le petit trait d'humour que je voulais faire là, etc., etc. Donc, c'est toujours bien que le traducteur se mette en rapport avec le traducteur pour lui poser des questions au cours de la traduction.
D'accord, donc il y a cet aspect-là qui prend effectivement énormément de temps parce que ça dépend selon les auteurs, selon ce qu'on veut.
Tout à fait.
Et puis, il y a aussi toute la gestion des comptes, l'administratif.
Voilà, ça c'est le côté moins rigolo.
C'est le côté qui n'est pas du tout littéraire, mais qui pourtant prend beaucoup, beaucoup de temps.
Oui, et puis la gestion, savoir quand les rentrées d'argent auront lieu et quand on pourra payer et nos traducteurs, et nos imprimeurs, et nos correcteurs, et nos auteurs.
Les auteurs, un peu.
Les auteurs, tout à fait. Là, par exemple, on est en pleine période de ce qu'on appelle la reddition des comptes, où on regarde les ventes qui ont été faites par auteur et par traducteur sur l'année 2019. Donc, on leur envoie des relevés de droits et on doit donc, si le livre a marché, il faut donc là leur payer les ventes qui ont été faites en 2019.
En sachant qu'en France, il y a une petite particularité, c'est-à-dire que les libraires peuvent commander et renvoyer, ce qui fait que ça complique encore un petit peu les choses.
Tout à fait. Chaque mois, on a un diffuseur-distributeur qui s'occupe, si vous voulez, de présenter les livres aux libraires. C'est comme une équipe de représentants commerciaux. Donc, ils vont chez les libraires, ils prennent des commandes. Donc, les livres sont envoyés à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle la mise en place quand un livre sort. Ensuite, si le livre marche, il peut y avoir du réassort. Ça veut dire que le libraire a vendu les livres qu'il avait commandés au départ et donc il en recommande parce qu'il continue à en vendre. Mais il se peut aussi que le libraire ne vende pas du tout de livres, aucun des livres de la commande de départ. Et dans ce cas-là, il va retourner ces livres-là pour être remboursé, si vous voulez, de cette commande. Et là, effectivement, notre diffuseur, à qui donc on fait une facture tous les mois qui correspondent aux ventes qui ont été faites dans le mois, on va plutôt dire aux commandes en librairie, chaque mois, il nous soustrait tous les retours qui ont été faits par les libraires. Donc, il se peut que même certains mois, on se retrouve sur des factures négatives.
Voilà, c'est pour ça que je voulais parler de ça. C'est un petit peu technique, mais je voulais en parler parce que ça, c'est un lien direct avec la Tribune Crisis que vous avez co-signée d'ailleurs.
Oui.
Et l'organisation de la profession, c'est-à-dire que au niveau des maisons d'édition indépendantes et des petites maisons, ce qui n'a absolument rien de péjoratif.
C'est péjoratif. Oui.
Le problème, c'est que la trésorerie, il y a certains mois, elle est négative.
Oui.
À cause justement des retours. Et est-ce que justement il y aurait une solution à ça ?
C'est compliqué. Alors le truc, c'est qu'effectivement, après, c'est un problème, ça soulève un problème plus général. C'est-à-dire que effectivement, la production éditoriale est telle que le libraire est vraiment ultra sollicité et que lui aussi, si vous voulez, à un moment donné, la librairie indépendante, ils n'ont pas 5000 m² d'espace de vente. Donc, ils sont obligés de faire tourner, les nouveautés, en fait.
Et ça, les stocks, c'est de l'argent.
Tout à fait, c'est de la trésorerie pour eux aussi. C'est-à-dire, voilà, c'est ça. Donc, quand ils renvoient des livres, quand ils font des retours, ça leur permet d'être facturés en crédit pour commander d'autres livres. Donc, le problème, ce qui se pose maintenant avec toute cette surproduction, c'est que la vie du livre en librairie est de plus en plus courte, malheureusement.
Et quel est l'impact, effectivement, là, de la crise sur Agulo Éditions, en prenant votre cas en particulier ?
Alors, pour nous, pour le moment, en fait, on n'a pas forcément encore la visibilité réelle de l'effet qu'aura cette crise. Parce que, du coup, on est en décalage, si vous voulez. En gros, notre diffuseur, il nous paye 90 jours, même 100 jours après qu'on ait mis un livre en vente. Ce qui veut dire que, et en plus, comme les librairies ont été fermées deux mois, là, à la réouverture, les libraires n'ont pas encore fait beaucoup de retours. Et on se dit que les libraires, ils vont faire des retours, là, en fait. Mais on ne sait pas quand. Et d'accord. C'est ça qui nous inquiète un peu, c'est de savoir dans quelle proportion seront ces retours. Après, à côté de ça, donc effectivement, on a eu plus ou moins un mois blanc en avril. Mais en mai, la reprise est plutôt très bonne, en fait, en mai et juin. Notamment en librairie, où on entend beaucoup de libraires qui disent que c'est comme c'est comme Noël, en fait. Les lecteurs vont là en librairie et du coup dépensent pas mal d'argent pour acheter des livres. Après, est-ce que ça va durer ? C'est à voir.
Et les premières mesures d'aide, est-ce qu'elles sont arrivées là, chez vous ?
Alors, on a eu des aides régionales. Il y a maintenant aussi le Centre national du livre qui est en train de déterminer des régimes spéciaux d'aide, mais en fait nous, ce qui nous a posé justement un peu de problème, c'est le fait que à partir de genre le 15 mars on nous disait déjà qu'est-ce que la crise aura comme impact sur votre entreprise, etc. Et pour nous, on savait pas, en fait.
Oui, avec ce que vous nous avez expliqué là, c'est que vous pouvez pas savoir.
Pour le moment, on peut pas savoir. Pour le moment, franchement, les deux mois de réouverture, ils sont pas si terribles que ça. Ils ne sont pas si tirés que ça. Donc, il y a eu une grosse paranoïa pendant ce confinement qui a fait qu'on s'est tous super inquiétés. Mais comme je vous dis, même voilà, le retour en librairie, les librairies, là, en ce moment, ça cartonne. Est-ce que ça va continuer ? C'est ça aussi. Est-ce que, par exemple, le lecteur qui aura fait un panier d'achat de livres de 400 euros, il va peut-être attendre peut-être 6 mois maintenant pour faire le prochain ?
Voilà, c'est ça.
C'est ça, parce que bon, voilà, ils vont avoir 30 livres à lire, il faudra qu'ils les lisent avant probablement d'en racheter, enfin, d'en recommander d'autres. Mais donc, c'est, pour nous, c'est là, la région, donc, parce qu'en plus, nous, on est une maison d'édition établie en Nouvelle-Aquitaine, enfin, à côté de Bordeaux. Alors, ce qu'on essaie de faire entendre à la région, c'est que les systèmes d'aide qui sont encore en train, auxquels ils sont en train de penser, il faut que pour nous, ils puissent être proposés sur une période longue, parce que c'est pas forcément maintenant qu'on les a, les problèmes, mais ça sera peut-être dans 3 mois, dans 6 mois, à la fin de l'année, ou au début de l'année prochaine. Donc c'est vrai que c'est...
Adapté aux besoins, quoi.
Tout à fait, et voilà, et pouvoir attendre, parce que si on nous demande tout maintenant, et qu'on n'a pas cette visibilité, pour nous, il vaut mieux donc pouvoir attendre et avoir une image plus réelle de la réalité et du futur.
Et donc, cette fameuse tribune crisis là, qui voulait une organisation de la profession, une organisation des maisons d'édition indépendantes et d'autres acteurs, est-ce que ça a bougé ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé de ce côté-là ?
Alors, pour le moment, concrètement, pas encore. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réflexions, d'échanges dans le secteur culturel. Alors, effectivement, il y a eu crise, mais c'est un peu aussi dépassé le monde de l'édition, où il y a aussi, si vous voulez, aussi cette méthode, enfin, cette réflexion dans les milieux de la culture. Ça peut être aussi les salons littéraires, les labels musicaux, etc., où effectivement on se dit qu'il faudrait peut-être qu'on se fédère, alors effectivement dans l'édition et peut-être plus largement en tant qu'acteur culturel. Mais bon, voilà, ça, si vous voulez, pour le moment, c'est des pistes de réflexion qui ont été lancées. Tout le monde, tous les éditeurs sont d'accord, en fait. Mais vous verrez quand même dans la signature de crédit, c'est surtout des plus petits éditeurs indépendants qui ont signé. Même ceux qu'on pourrait considérer comme des petits éditeurs, mais qui sont pour nous finalement plus importants, qui sont peut-être petites par taille, mais qui ont par exemple un chiffre d'affaires assez important, ils n'ont pas signé.
Des éditeurs de niche.
Oui, ou par exemple, je ne sais pas, par exemple, Sabine Vespizer, qui est éditrice indépendante, mais qui finalement, ce n'est pas un petit éditeur, quoi. Ou le Tripod, vous voyez, des éditeurs plus. Qui ont peut-être plus de succès, entre guillemets, dans la vente de leurs livres. Parce qu'effectivement, nous, éditeurs indépendants qui publions des fois de la littérature qui peut être. Un peu plus complexe, un peu moins facile à lire que l'autre littérature, on va dire. On fait pas non plus, on vend pas 10 000 exemplaires à chaque fois qu'on sort un livre, quoi.
Ouais, vous avez des beaux succès quand même, je crois.
Oui, mais bon, ça, c'est pas quand même de l'ordre de Gallimard ou.
Ah ben non. Ouais. Ben, c'est ça le problème, c'est qu'on se retrouve avec presque des entreprises du CAC 40 et des artisans, donc c'est très difficile d'avoir un plan d'ensemble pour le système.
Oui, par exemple Valerio Varesi qui est repris en poche chez Point doit vendre à peu près 4 fois plus que nous les livres de Valerio que nous en grand format.
Ben, c'est peut-être aussi le prix.
Oui, tout à fait.
Eh ben merci beaucoup Nadège. On comprend un peu mieux comment ça marche, tout ça. Est-ce que vous auriez un roman à recommander, un livre que vous avez lu pendant le confinement et vous aviez envie de partager avec les auditeurs ?
Eh ben, écoutez, là, le dernier livre que j'ai lu s'appelle « L'âge de fer ». Et c'est un petit roman assez court, édité chez les éditions Do, qui sont aussi un éditeur bordelais. C'est le roman qui parle d'une famille finlandaise dans les années 50 et qui émigre en Suède. Et donc, c'est l'histoire est racontée du point de vue d'une petite fille qui est la cadette d'une famille de 3 enfants. Et donc, ouais, c'est un roman qui est à la fois drôle et assez émouvant. Donc, voilà, qui se passe entre la Finlande et la Suède. Et c'est très drôle aussi et c'est vraiment sympa comme livre.
Eh bien, merci beaucoup. On va écouter Martha Reeves and the Vandellas qui chante « Nowhere to Run ». Merci beaucoup, Nadège Agulot.
Merci, Patrick.
On l'a vu, les conséquences de la crise sanitaire sont légion pour les professionnels du livre et toutes ces professions attendent des réponses de leur autorité de tutelle, le ministère de la Culture. Mais l'organisation des aides aux structures et aux acteurs et actrices du livre dépend également d'une institution comme le Centre national du livre, un organisme aux nombreuses attributions, comme nous allons le voir avec son président. Bonjour Vincent Monadet, merci d'être avec nous.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Alors, qu'est donc le Centre national du livre ?
C'est un établissement public du ministère de la Culture qui distribue des aides chaque année aux auteurs, aux éditeurs, aux libraires, aux organisateurs de salons et aux bibliothèques.
Et donc, c'est un organisme officiel ?
Tout à fait, c'est une institution. Oui.
Et donc, le financement vient directement du gouvernement ?
Le financement vient effectivement du budget de l'État.
Et est-ce que c'est une institution autonome, c'est-à-dire qu'elle prend les décisions elle-même ou elle doit en référer avant ou...
Non, il y a un président et un conseil d'administration de plein exercice. Et après, il y a un exercice normal de la tutelle, c'est-à-dire que les options stratégiques ne doivent pas être totalement différentes de celles du gouvernement. Après, on dirige notre établissement... En toute liberté.
Et donc, il y a des aides qui sont distribuées aux maisons d'édition, aux auteurs, aux traducteurs. Il y a différentes commissions.
Il y a une vingtaine de commissions à peu près, composées de professionnels qui interviennent sur tous les domaines de la chaîne du livre et reçoivent des dossiers et attribuent ou non des aides selon les dossiers qui leur sont présentés. Ça, c'est en fonctionnement normal. Et il y a 3 sessions de commission par an, donc c'est à peu près 2500 à 3000 aides tous les ans.
Et ça représente un financement de combien par rapport à la filière du livre ?
Ah, c'est aux alentours de 23 millions d'euros.
Ah oui, quand même.
Sur un marché, oui, mais sur un marché qui est de, selon les calculs que l'on prend, mettons le chiffre d'affaires éditeur de 2,7 milliards.
Et donc, justement, on en vient au problème de la crise sanitaire. Mais avant cette crise, la profession dans son ensemble ne se portait pas si bien que ça.
Il y a de nombreux métiers... Non, je ne dirais pas comme ça. On a quand même beaucoup mieux résisté que des tas d'autres industries à la crise de 2008. Et depuis, on est sur un espèce de mouvement, parfois un peu en hausse, parfois un peu en baisse. C'est pas enthousiasmant, mais on n'est pas non plus confronté à des difficultés économiques réelles. C'est juste cette espèce d'atonie du marché qui est difficile. Oui, selon les maisons, c'est très variable.
Bah oui, c'est ça, vous gérez aussi bien des entreprises qui sont des très grosses entreprises que des tout petits ateliers pratiquement artisanaux qui publient 2-3 livres par an.
Exactement, c'est très très variable le marché de l'édition. Donc le marché du livre, il est composé de grands groupes, ça c'est vrai, comme Hachette ou comme le groupe Editis. Il est aussi composé de grosses entreprises de taille intermédiaire, comme les groupes... Gallimard, Média Participation, de PME solides et fortes comme Madame Michel ou Actes Sud. Et puis, vous l'avez dit, de toute une galaxie d'entreprises qui vont de la micro-entreprise quasi artisanale au groupe multinational. Voilà. Et pour autant, on peut faire de la très grande qualité d'édition en tant une toute petite maisons d'édition, je pense par exemple à des éditions comme Anacartis ou comme Agone ou comme L'Œil d'Or, qui sont des petites maisons et qui font du travail de très grande qualité.
Oui, il y a un des problèmes qui a été soulevé quand même par ces maisons, justement les maisons indépendantes, c'est la surproduction. C'est-à-dire qu'en 2018, on a eu quelque chose comme 225 livres par jour qui sont sortis et donc ça crée quand même une grande distorsion de concurrence.
Chacun voit midi à sa fenêtre. Les grands éditeurs vont vous dire que la surproduction est essentiellement le fait de la multiplicité de petites maisons qui publient des livres. Les petits éditeurs vont évidemment vous dire que c'est la publication de tous les livres des grands éditeurs qui en publient trop. Oui, il y a manifestement un excès de production dans ce pays. mais c'est pas l'État qui va réguler ça. C'est chacun d'en prendre conscience et de commencer à changer les pratiques. On peut espérer que la crise sanitaire va permettre ça.
Et est-ce que l'État ne pourrait, ou le Centre national du livre, je ne sais pas, pourrait être en quelque sorte médiateur ?
Si ça nous était demandé, oui, mais pour l'instant, personne ne nous le demande. Évidemment que le rôle du CNN, c'est d'être le médiateur entre les différentes professions. Mais à l'heure actuelle, les professions sont organisées dans des syndicats, syndicat national de l'édition, syndicat des éditeurs alternatifs pour les éditeurs, par exemple. Ce sont des structures représentatives où ils peuvent discuter de ça.
Et apparemment, les discussions passent pas trop bien parce qu'il y a eu un nombre incalculable de tribunes qui sont parues là pendant la crise et qui tiraient toutes à U et à Dia. Donc ça doit pas être évident de faire une synthèse.
Non, ben justement, c'est pareil. Chacun fait sa tribune en pensant qu'il détient l'absolue vérité et qu'il a raison et que c'est comme ça que ça se passe et pas autrement et que c'est la faute de la surproduction et que c'est la faute, au contraire, des éditeurs qui sont méchants ou voilà. Et en vérité, personne ne s'est jamais posé avec des chiffres réellement pensés. Pour dire de quoi parle-t-on quand on parle de crise de la surproduction ? Existe-t-elle ? C'est un travail qui ne pourrait se faire qu'avec les libraires, de toute façon. C'est super d'écrire une tribune, mais après, il faut en déclencher quelque chose de concret, et pour l'instant, je vois rien de concret.
Avec les libraires, et puis avec tous les travailleurs indépendants du livre, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans une situation de précarité absolue, là.
Bien sûr, mais les premiers, vous savez, les premières victimes de la surproduction sont les auteurs, hein. Il y a trop de livres, le nombre de titres moyens... est vendu, le nombre d'exemplaires moyens vendus par titre baisse automatiquement.
Voilà. Ouais, donc, oui, parce que 225 livres, il n'y a pas la clientèle pour absorber ça en France.
Mais bien sûr que non, il n'y a pas la clientèle pour absorber ça. Après, de quoi parle-t-on ? Encore une fois, chacun parle de sa porte. Il y a certains qui vont vous parler que de fiction, d'autres qui vont vous parler que d'essais de SHS, de sciences humaines et sociales, pardon. La réflexion, elle est à conduire sur l'ensemble du marché.
Oui, avec des intérêts aussi, qui sont très, très différents.
Et aussi sur des livres dont personne ne parle, que sont les livres pratiques, les livres scolaires, le parascolaire, etc. J'ai jamais entendu un éditeur de littérature générale s'offusquer qu'il y ait trop de titres de parascolaires qui paraissent, vous voyez. Très facile de pointer du doigt sur ce qui serait un problème et ce qui serait l'ennemi. Beaucoup plus difficile d'apporter des solutions.
Quelles sont les solutions, à votre avis ?
Une régulation par chaque éditeur eux-mêmes du nombre de leurs titres de parution. Donc, une discussion entre eux conduisant à l'adoption de bonnes pratiques en termes de surproduction. Mais derrière ce qu'on appelle la surproduction, il y a aussi une machine industrielle qui diffuse les livres, les distribue sur tout le territoire français et qui doit tourner. Donc c'est pas en revenant à 50 livres par an qu'on s'en sortira, en fait, en vrai.
Donc la solution serait peut-être par des états généraux du livre ?
S'ils sont conclusifs, oui. Ouais, les états généraux de 89, ils ont été conclusifs.
Ouais, par exemple.
Enfin, 87. Oui, je sais plus. Ils ont été conclusifs. Voilà. Donc si les états généraux sont conclusifs, oui. Ce genre de grand mec, il faut que ça aboutisse quelque part.
Oui, parce qu'autrement, ça va repartir comme avant et c'est pas sûr que ça tienne très longtemps là. Il y a beaucoup d'entreprises là qui vont avoir effectivement beaucoup de mal, ne serait-ce que les libraires.
Non, alors pour le coup, je pense que les annonces de Franck Riester de la semaine dernière sont de nature à nous permettre, CNL et partenaires, d'avoir une action très forte sur la librairie française et donc probablement de sauver le maximum possible d'entreprises. L'État a décidé donc de mettre 82 millions sur le livre, dont en subvention 42 millions d'euros sur la 37 millions d'euros pardon sur la librairie directement. Je crois que ça nous permet d'envisager l'avenir de façon plus sereine.
Sur les différentes demandes qui avaient eu lieu, on arrivait presque à 500 à 600 millions estimés nécessaires par certains acteurs. Et là, si on fait le compte, on arrive à peine à 100 millions dégagés.
Alors non, on est à 230 millions en tout, hein, parce qu'il y a, ouais, qui a été dégagé aussi en amont. On est à 230 millions en tout, dont là, dans la dernière enveloppe, ça a été annoncé 82 millions d'euros. L'enjeu de sauvetage de la librairie est, à mon avis, pris en compte et rendu possible maintenant. Voilà, je crois qu'on va pouvoir sauver les librairies par un mécanisme d'aide automatique qui sera mis en place pour leur permettre de compenser les pertes de charges fixes de liées au coronavirus. Voilà.
Donc là, effectivement, moi, je pose la question, c'est peut-être un peu naïf, mais n'est-ce pas justement le temps, là, après cette crise, après toutes les difficultés, avec cet argent qui, suffisant ou insuffisant, on le verra avec le temps, va être injecté, n'est-ce pas le temps justement de faire de créer une organisation où les gens, tous les acteurs puissent parler ensemble et voir ce qu'ils veulent réellement?
Peut-être, mais ça, c'est d'abord, d'une part, ça serait, si ça vient de l'État, c'est au ministère d'en prendre la décision, et si ça vient des professionnels, c'est à eux de le construire. On n'est pas dans ce pays dans une économie administrée. On est dans ce pays dans une économie de marché. Donc, c'est aussi au marché de se réguler. Et c'est aussi au marché, peut-être aidé par l'État, d'avoir des discussions, d'avoir des négociations et d'aboutir à des solutions.
Dans l'ensemble, vous êtes plutôt optimiste, vous, sur cette sortie de crise ou plutôt pessimiste?
Moi, mon pessimisme n'est pas lié à la crise. Voilà. Je pense que le grand débat qui a été évité pendant cette crise sanitaire, où nous nous sommes battus pour obtenir un plan de relance d'ampleur que nous avons finalement obtenu et que le ministre a annoncé, le grand absent du débat, c'est la lecture et les lecteurs, comme d'habitude. Voilà. Alors moi, on me dit il y a de la surproduction, etc. Et moi, je réponds, s'il y avait assez de lecteurs, il n'y aurait peut-être pas de la surproduction. Voilà, on est en train de perdre des lecteurs. Chacun continue à éditer ce qu'il veut dans son coin, c'est très bien, hein, voilà, éditer ses livres, tout ça, mais il y a de moins en moins de gens pour les lire, en fait. En vrai, voilà. Et le débat qu'on évacue, mais d'ailleurs, ça a été dit, je crois, par Stéphane Carrère, l'éditeur, hein, le grand débat qu'on évacue, c'est celui de la lecture, et c'est celui de tous ces gens qui nous ont dit pendant le confinement, oh là là, je n'arrive plus à lire, donc je regarde des séries sur Netflix. Voilà, c'est pas vrai que tu n'arrives pas à lire. C'est pas vrai que d'un seul coup, ton angoisse t'empêche à une concentration. Si tu l'as pour regarder des séries sur Netflix, tu l'as aussi pour lire des livres. C'est que tu arbitres entre la lecture et regarder des séries. Et que l'arbitrage se fait au profit des séries et au détriment du livre. Donc l'enjeu de fond, l'enjeu civilisationnel, c'est celui-là. Il n'y en a pas d'autre. Les histoires de surproduction, elles ne tiennent pas devant cet enjeu civilisationnel-là. Mais celui-là, il est très difficile à appréhender et personne ne veut s'y confronter parce que pour le coup, ça revient à se dire comment peut-on faire des livres que les gens aient envie de lire, d'acheter, de partager, d'offrir. Voilà.
Et comment peut-on alors?
Pour moi, il y a un travail colossal à faire sur les années collège, c'est-à-dire ce moment de décrochage de la lecture bien étudié, bien connu, entre 13 et 14 ans. Et ça passe donc par une politique globale, là, pour le coup, État et professionnels en face, de soutien à la lecture. De soutien à la lecture via tous les dispositifs qui sont possibles et imaginables.
Voilà au moins une piste pour améliorer un peu la situation. Mais on va commencer tout de suite. Est-ce que vous auriez un roman à recommander aux auditeurs là?
Je ne sais pas, un roman, oui, des tonnes, mais un récent ou...
Ce que vous voulez, celui qui vous a marqué dernièrement.
Très dernièrement, c'est... Oui, c'est probablement La Maison indigène de Claro chez Actes Sud qui m'a vraiment marqué. C'était pendant le confinement, ça. C'est un récit sur sa famille et une villa qu'avait construit son grand-père qui était architecte au Maroc. Voilà, et le tout s'entremêlant avec les questions coloniales, etc.
On va commencer à relancer la lecture avec La Maison indigène de Claro. Merci beaucoup.
C'est parfait. Je vous en prie.
Et on va s'écouter Tracy Chapman, Talking About Revolution. Tant qu'à changer quelque chose, autant faire la révolution.
Don't you know we're talking about a revolution? Sounds like a whisper. Don't you know we're talking about a revolution? Sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. Who are people gonna rise up and get their share? Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. Cause finally the tables are starting to turn. Talking about the revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution.
Voilà, c'est fini, en espérant que ces deux émissions vous auront, comme à moi, fait découvrir des aspects méconnus des professions du livre et permis d'éliminer quelques idées reçues, et enfin servi à mesurer la profondeur de la crise en cours. Nous nous retrouvons très vite avec les dernières parutions, ou plutôt les premières livraisons post-Covid. Respectez les gestes barrières, rien de mieux que s'abriter derrière un roman ouvert pour éviter les postillons. Bye bye!
Des polars et des notes.